Salut, ici Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias. C'est la dernière émission avant la pause estivale où nous vous proposerons de réécouter certaines de nos productions. Avant de vous quitter, nous avions envie de revenir sur un des plus grands rendez-vous télévisuels français. Une émission dont la fréquence a varié avec le temps, tous les 7 ans, puis tous les 5 ans. La dernière en date, 7e de notre histoire télévisuelle et politique, a eu lieu le 3 mai dernier à 21h.
C'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain.
Vous aurez bien sûr reconnu le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle française. Le premier de ces débats a eu lieu en 1974. Il opposait Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Celui de 2017 a vu s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au soir de ce 3 mai, après 2h20 de confrontation et d'opposition frontale, j'ai eu le sentiment que ce face-à-face télévisé allait avoir une influence importante sur la vie politique française. Il était un révélateur et un tournant. C'est donc tout naturellement que j'ai souhaité en savoir plus.
RFI. Je m'appelle Tristan Carnet, je suis réalisateur d'émissions de télévision. Je réalise pas mal de genres différents, je suis spécialisé dans le direct, qui sont soit des gros divertissements comme The Voice, Danse avec les Stars, les Energy Music Awards, la fête de la musique, le Téléthon, du jeu. Je réalise des jeux avec Nagui. Je réalise des talk shows. J'ai réalisé le Grand Journal pendant toute la durée du Grand Journal depuis la première année. J'ai réalisé là pour l'année électorale beaucoup des débats. Débats des primaires de droite. Puis le face-à-face Juppé-Fillon. Puis j'ai réalisé la première émission des débats des primaires de gauche, puis le face-à-face Valls-Hamon, puis j'ai réalisé le premier grand débat avec les 5 candidats les plus importants de la campagne, puis j'ai réalisé le face-à-face débat d'entre-deux-tours Marine Le Pen, Emmanuel Macron.
Nous allons rester avec Tristan Carnet pendant toute l'émission aujourd'hui. Il est donc réalisateur télé, un métier qu'on connaît en général parce qu'on a lu distraitement le générique de milliers d'émissions, mais dont on ignore presque tout. Bien entendu, nous allons évoquer longuement avec Tristan le débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen qu'il a réalisé. Mais avant cela, je souhaite en savoir plus sur son métier et comprendre comment il peut signer autant d'émissions différentes, du Téléthon au débat présidentiel en passant par The Voice ou Danse avec les Stars.
Alors, réaliser une émission en direct, c'est préparer en amont, mais c'est évidemment en direct, en instantané, capter le mieux possible ce qui se passe sur un plateau, que ce soit un plateau de débat politique ou que ce soit The Voice ou une émission de variété. Ma particularité à moi, c'est je pense que je travaille dans un grand calme. Et ça, je pense que ça plaît à beaucoup de producteurs parce que finalement, le direct, par définition, c'est quelque chose d'assez excitant qui peut parfois être un peu effrayant aussi. Pendant l'émission, en direct, on est dans une régie qui est à côté ou à part, enfin en tout cas en dehors du plateau. Et on a le plateau représenté par des images. On a entre 8, 10, 12 caméras, 15 ou 16 quand c'est un gros prime. Et donc, mon métier déjà, c'est de mettre en image ce qui se passe sur un plateau. Je guide les cadreurs, mais je guide pas que les cadreurs. On est un peu comme un chef d'orchestre. On gère toute la technique. On parle dans un micro. Tous les techniciens, c'est à peu près une soixantaine de personnes nous entendent. Quand je dis tous les techniciens, c'est évidemment les cadreurs, mais c'est aussi le son, la lumière, les assistants qui sont sur le plateau, les maquilleuses. Enfin, c'est l'opérateur prompteur pour qui fait défiler le texte. C'est les animateurs à qui on peut parler dans les oreillettes. Donc, lorsqu'on réalise une émission en direct, on répète, on prépare, on imagine tout ce qui peut arriver, les cas de figure. On essaye de mettre en scène les arrivées, la façon dont on va filmer un peu tout ce qui va être donné à voir aux téléspectateurs. Et après, pendant le direct, eh bien, on guide vraiment toute la technique et on fait une sorte de montage en direct, ce qui s'appelle de la commute. On passe d'une caméra à l'autre en essayant de ne pas aller trop vite pour pas que ce soit non plus trop déstabilisant pour le téléspectateur. Mais on essaye de montrer ce que le téléspectateur voudrait voir s'il était en plateau. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me représente mon métier. C'est-à-dire, je me pose toujours la question de savoir si les spectateurs étaient en plateau, sur quoi leur regard se porterait. Et j'essaye de montrer ça. C'est pour ça que, par exemple, sur une émission politique, qu'est-ce qu'on on est plus sur une personne qui dit quelque chose ou sur la personne qui l'écoute et qui encaisse ce qui est en train de lui être dit, à ce moment-là, parfois un plan d'écoute en dit plus qu'un plan sur la personne qui parle, quoi.
Un plan d'écoute, c'est quand on filme la personne qui écoute, quoi.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des plans de coupe, ou moi j'ai appelé ça des plans d'écoute. On y reviendra, mais ça a été le gros débat de ce débat, justement. Ça a été mon gros combat de réussir à réimposer les plans d'écoute sur ce débat d'entre-deux-tours qui n'avait jamais existé depuis 1974.
Tu dis que c'est un peu un métier comme un chef d'orchestre. Quand on compare à un chef d'orchestre, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi on fait appel à toi pour autant de choses différentes. Parce que c'est, voilà, il faut beaucoup d'aptitudes, il faut très bien connaître tous les domaines. Et toi, tu précises que tu arrives à le faire dans le calme, ce que j'imagine n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de stress en direct, beaucoup de choses compliquées. Il doit y avoir des personnes qui gèrent plus ou moins bien ça, quoi.
Voilà, c'est parce que tu me demandes peut-être ma particularité à moi, donc je ne peux pas te dire que c'est... Je ne sais pas, parce que j'ai une réalisation différente, sûrement. D'ailleurs, on a chacun notre patte un petit peu, bien que sur des émissions comme Quotidien ou Le Grand Journal, on n'est pas notre patte de réalisateur à mettre. On est là pour bien retranscrire ce qui se passe, pas louper les petites mimiques de Yann, les petites mimiques des invités qui sont en plateau. Donc là, l'exercice sur ce type d'émission, il est juste d'être vraiment au taquet de ce qui se passe, de ne pas louper de choses et évidemment de pouvoir driver ce plateau du mieux possible. Sur d'autres émissions où on va avoir besoin d'être plus créatif, entre guillemets, par exemple sur des émissions de variété, où là on a besoin de chiader des plateaux, que ce soit très joli, comme The Voice ou l'Energy Music Awards, ou évidemment Danser avec les Stars, qui sont des émissions où les tableaux sont vraiment très pensés, c'est des voilà, il faut que ce soit très magique, c'est vraiment un spectacle de divertissement. On veut que les gens dans leur salon soient comme s'ils étaient assis dans la salle, qu'ils vivent le spectacle. Donc là, on parle vraiment plus, entre guillemets, d'artistique que sur un plateau de jeu où il y a une mécanique très précise, où là, on va faire plus appel à notre savoir-faire de technicien pour que tout fonctionne bien. Ou sur un plateau comme le débat politique, où là, on va, pareil, nous demander de connaître parfaitement la technique et d'avoir une maîtrise parfaite de ce qu'on va mettre à l'antenne, puisque l'enjeu est énorme et que sur ce type d'exercice-là, tout est très surveillé, très cadré par le CSA, par les chaînes, par les entourages des candidats. Après, donc, ma particularité à moi, je pense, parce que c'est ce qui s'en dit, en tout cas, c'est ce que m'en disent les producteurs et puis les patrons de chaînes avec qui je travaille, c'est que moi, je suis assez calme et que dans des moments d'euphorie, un peu que sont les quelques minutes ou les heures qui précèdent les directs, ben, le calme est plutôt apprécié parce qu'on a le sentiment que je maîtrise toute cette partie-là. Et donc, voilà, il y a quelque chose de... On se dit, tiens, le réalisateur est calme, donc c'est que ça doit aller, quoi.
Et en vrai ?
Après, ça ne m'empêche pas d'avoir des angoisses ou des coups de stress, comme tout le monde, hein. je ne suis pas un surhomme, mais j'essaye de les camoufler, de ne pas les montrer, parce que je pense qu'effectivement, ça véhicule une sorte de stress qui se répand très facilement dans l'équipe, et du coup, je pense que ce n'est pas une bonne énergie, je pense que ce n'est pas ça qui permet aux gens de se concentrer. Les techniciens sur un plateau sont généralement tous là pour faire le mieux possible leur travail. Il n'y en a pas un qui vient dans l'idée de planter. Donc je pense que quand il y a une erreur qui est faite, c'est une erreur. Donc voilà, après, faut la particularité du direct, c'est qu'il ne faut pas rester sur les erreurs. Moi, si je passe une caméra floue, une caméra qui bouge, donc que je fais ce qu'on appelle une mauvaise commute, il faut que je puisse la digérer aussi vite qu'elle a été passée, cette caméra, parce que sinon, si je reste dessus, si je m'en veux, si je commence à, je sais pas, en vouloir au cadreur, à moi, je vais rester sur cette boulette et je vais en refaire trois autres. Donc, il faut l'évacuer. Et puis, à la fin du tournage, on fait un point. Si c'est une émission... qui se refait, on essaye de se débriefer pour pas que la boulette soit refaite une deuxième fois, et puis on essaye toujours d'éviter au maximum. Mais bon, après voilà, les gens aiment aussi bien voir les petits pains, ça fait partie du direct, c'est souvent quelque chose qui est gommé dans les émissions montées. Là, en direct, je pense que c'est une des particularités du direct, c'est que les téléspectateurs ont beaucoup plus de facilité à accepter un petit problème technique du fait qu'ils sont en direct.
On voit ici François Fillon qui attend le top pour entrer sur le plateau. Une fois.
Top. Il veut y aller.
Nous, on travaille pour un programme qui souvent a été déjà vendu par un producteur à une chaîne, et on est là pour le mettre en image, le mettre en musique, lui donner un rythme, lui donner une couleur, donner un cadre à tout ça, comment on va installer le public, est-ce qu'il y a une table, pas de table, est-ce que l'animateur est debout, assis, etc. Donc on est beaucoup plus des faiseurs entre guillemets que des créateurs. C'est pour ça que les réalisateurs de télévision qui ont une tendance un peu trop grande à se prendre pour des artistes, restent pas longtemps, parce qu'il faut comprendre vraiment ça. En télévision, on est là pour servir des producteurs, servir un diffuseur, on se met dans l'exercice bien précis d'une émission. Quand je réalise The Voice, je sais parfaitement que ce qu'on va donner à voir aux téléspectateurs, c'est évidemment des gens qui chantent, mais il y a toute une dramaturgie autour de ça. Il y a un enjeu pour eux, les fauteuils ne sont pas retournés par hasard. Toute cette dramaturgie, il faut la montrer. Il faut montrer que le coach hésite, qu'il va pour appuyer sur le bouton, puis il rétracte sa main. C'est ça que les téléspectateurs veulent voir. Et puis ils veulent voir aussi un chanteur qui rentre sur scène, qui est stressé, pas qui se ronge les ongles, mais qui se serre les mains, qui serre les poings, qui est impressionné par son entrée sur scène, etc. Donc on n'est pas nombreux à faire beaucoup de genres différents. Il y a aussi, en fait, faut savoir que la plupart des réalisateurs, ils ont quand même un cadre dans lequel ils travaillent et qui est souvent le même. Par exemple, il y a des réalisateurs qui font que du sport. Par exemple, moi, je ne fais pas de sport parce que les fois où on m'a proposé de réaliser des matchs de foot, j'ai considéré que je ne connaissais pas assez le foot pour aller là-dedans. Donc, je préfère beaucoup plus laisser ça à des réalisateurs qui connaissent ça. Il y a des réalisateurs qui sont très spécialisés dans le jeu et on est, en revanche, assez peu nombreux à être transgenres comme ça, c'est-à-dire à passer d'un univers à l'autre, le gros problème de divertissement, le talk show, la politique, etc. On est peut-être 3-4 à faire autant de genres différents.
Tristan Carnet aime parler de son métier. Il fait preuve d'une grande pédagogie quand il le décrit. Je comprends mieux maintenant pourquoi et comment un même homme, une même personne peut signer autant de programmes télévisuels différents. Parlons maintenant de politique et de la manière dont il a été choisi pour réaliser le débat du 3 mai dernier.
Moi, je me souviens parfaitement de comment tout ça a un peu démarré. La première fois qu'on m'a proposé de travailler avec des politiques hors télévision, c'était en 2007, où j'ai été approché pour travailler sur la campagne de Nicolas Sarkozy. À l'époque, ça m'intéressait de faire ça parce que c'était justement une corde à mon arc que je n'avais pas. Et j'étais très intrigué et très intéressé par tout ce qui était comme politique, etc. Donc pour moi, la possibilité de voir ça depuis l'intérieur d'un parti, c'était quelque chose d'intéressant. J'ai finalement pas pu le faire parce que ça a été une année compliquée. J'ai perdu mon père, enfin j'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que j'ai pas pu le faire.
Et ça voulait dire quoi en fait, être approché? Ton métier allait consister à quoi? Ça allait être quoi?
Ça consistait par exemple à réaliser les meetings de Nicolas Sarkozy, à mettre en image sa campagne. Comment on allait gérer l'image du candidat pendant la campagne. Et aujourd'hui, les partis ont leurs propres équipes d'images. Ils donnent leurs images aux médias quand ils sont en déplacement, quand ils font des meetings. Maintenant, les réalisateurs des meetings, c'est les réalisateurs qui sont appelés par les partis, ce qui permet d'avoir une image très maîtrisée des meetings. Par exemple, avant un meeting, il faut savoir que, évidemment, les meetings, la presse est invitée. Et avant, une estrade, des caméras pour la presse, il y a encore 15 ans, c'était une vingtaine de caméras. Aujourd'hui, c'est 70 caméras. Pourquoi? Parce que tous les sites internet ont aussi aujourd'hui leurs caméras pour venir filmer. C'est-à-dire même la presse écrite, Le Parisien, Libération, Le Figaro, viennent avec leurs reporters pour pouvoir mettre sur leur site internet de leur journal des images. Donc la multiplication des caméras comme ça pendant les meetings fait que l'image est beaucoup moins maîtrisée. Selon qu'on soit complètement sur le côté de cette estrade de caméras, que le cadreur soit un peu jeune, qu'il mette le mauvais filtre, etc. Donc les partis maintenant filment eux-mêmes leur meeting, mettent à disposition l'image du meeting filmé à toute la presse gratuitement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs à la presse de quand même venir avec des caméras filmer ce qu'elle veut filmer pendant les meetings. Mais cette image, en tout cas, elle est maîtrisée, elle est propre, elle est bien faite et elle est fournie gratuitement à toute la presse. Bon, ça c'est un exemple, par exemple, de ce que j'aurais été amené à faire si j'avais travaillé en 2007 avec Nicolas Sarkozy. La réalisation des meetings, la gestion de son image, comment on le filme, quelle caméra on envoie quand il se déplace à tel endroit, etc., etc. En 2012, on m'a proposé à nouveau de le refaire, cette fois-ci pour François Hollande. Nous, évidemment, ça ne raconte rien sur nos engagements politiques. Nous, on est appelés comme des hommes d'image, c'est-à-dire comme une agence de com pour être appelée, etc. Moi, à partir du moment où ça se passait dans un cadre démocratique, ça m'intéressait d'y aller aussi pour François Hollande, comme ça m'aurait intéressé de le faire pour Nicolas Sarkozy.
C'est étonnant quand même. Hein,
c'est étonnant. C'est effectivement étonnant, mais bon, voilà, nous on surfe sur ce marché, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment, enfin, je dis ça un marché, c'est pas un marché, mais ce monde des politiques qui finalement connaît aujourd'hui l'image, mais pas bien finalement. Donc, ils font appel aux réalisateurs du moment. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis un des réalisateurs qui tourne sur pas mal d'émissions. Je les rencontre, les politiques, quand ils sont invités dans les émissions, dans les couloirs, etc. On finit par être identifiés par eux et donc approchés. Voilà, donc en 2012, contrairement à en 2007, où j'avais eu ces problèmes de famille qui m'avaient empêché de travailler sur la campagne de Sarkozy, là, j'avais pu travailler sur la campagne de Hollande. Donc j'ai réalisé du coup le meeting du Bourget, par exemple, qui était son meeting de lancement de campagne, etc., etc. Et j'ai été donc réalisateur conseil du débat d'entre-deux-tours. J'étais réalisateur conseil de Hollande. Réalisateur de conseil, ça consiste simplement à vérifier techniquement que un des deux candidats sur le plateau ne va pas être défavorisé par une caméra qui va être trop loin ou éclairée différemment ou va pas bénéficier de la même climatisation sur le plateau, etc. C'est juste de vérifier qu'il y ait une équité, une égalité dans le traitement des candidats sur le plateau. Donc c'est un travail qu'on fait entre nous, les réalisateurs. C'était Jérôme Revon qui avait réalisé en 2012. Moi, j'étais réalisateur conseil de Hollande. Yves Barbard était réalisateur conseil de Sarkozy. On se parlait entre nous pour dire bon, bah, ça vous va. Jérôme Revon nous disait, moi, je vais mettre les caméras à tel endroit. Est-ce que ça vous va? Vous validez? On validait souvent parce que le travail était fait, enfin, bien fait. Ensuite, j'ai à nouveau réalisé beaucoup d'émissions politiques pour différentes chaînes, beaucoup pour TF1 notamment. Et là, évidemment, nous, notre travail, il est d'être le plus neutre possible. Il n'est pas question que le réalisateur, hein, dans des émissions politiques, donne ou favorise un candidat plutôt qu'un autre. De toute façon, on a des pare-feux en régie qui sont la rédaction, qui sont, je parle des émissions autres que les débats. On a des journalistes, etc., qui sont là aussi pour vérifier qu'on ne soit pas dans un travail de mise en image qui pourrait favoriser un politique plutôt qu'un autre. Donc, ce qui a été le cas, par exemple, quand j'ai réalisé les débats des primaires de droite, bon, il y avait 7 candidats, hein, c'était le premier grand débat où il y avait Sarkozy, Copé, Juppé, Fillon, Poisson, Nathalie Kosciusko-Morizet, etc. Bon, bah là, j'ai eu un traitement des 7 candidats qui était parfaitement équitable, égal, à tel point que les plans de coupe, c'est-à-dire les plans d'écoute que j'ai passés des candidats qui ne parlaient pas, donc, je les ai comptabilisés, personne ne me l'avait demandé. J'avais une script à qui j'avais demandé de comptabiliser les plans d'écoute que je passais pour ne pas en passer plus d'un candidat que d'un autre. Si on compte le nombre de plans d'écoute qu'il y a sur ce premier débat des primaires, il y a autant de plans d'écoute de M. Poisson que de M. Sarkozy.
Une question sur ça, mais on va rester sur ce qui nous intéresse, c'est que on dit toujours que les contraintes sont ce qui permet de faire les choses, c'est-à-dire qu'on va se plaindre d'avoir des contraintes, mais en fait, au fond, un des enjeux de ces métiers-là, c'est de s'adapter aux contraintes, de faire avec et de faire au mieux en fonction des contraintes. Est-ce que dans le cas de ces égalités, de ces compteurs qui tournent à la seconde, etc., est-ce qu'on n'est pas, je veux bien ton avis de réalisateur, dans des contraintes qui parfois tuent complètement le spectacle, tuent un peu l'intérêt du débat, obligent à favoriser des personnes qu'on ne favoriserait pas parce qu'elles sont un peu absentes, etc., ou pas du tout pour toi ?
Non, pas du tout. Ce qu'il faut, enfin, de toute façon, le problème de ce type de débat, c'est que on est obligé d'inventer un cadre pour donner un rythme à ce débat-là. Parce qu'évidemment, sinon, vous imaginez bien que 7 personnes sur un même plateau, c'est un débat qui pourrait durer 5 heures. Sauf que 5 heures, ça devient un débat qu'on n'écoute plus, l'attention retombe. Enfin, c'est impossible. Donc, il faut cadrer ça dans un temps qui va être le temps de l'émission. Et après, au milieu de ce temps-là, bah, on va aborder plusieurs thématiques qui sont les thématiques qui intéressent les Français. Hein. Les Français, ils ont besoin d'entendre ces candidats parler sur plusieurs domaines, l'économie, le chômage, etc., la sécurité, enfin des tas de domaines qui importent à ce moment-là du débat. Et donc, aborder plusieurs thèmes à 7 dans un cadre d'une émission qui ne doit pas excéder 2h30, 3h, mais c'est déjà beaucoup, d'ailleurs 3h d'écoute, eh ben, on est obligé d'inventer une mécanique qui peut paraître un petit peu complexe et compliqué, mais finalement qu'il n'est pas tant que ça. Quand on multiplie le temps de parole par 7, on se rend très vite compte qu'on va très vite monter dans le temps global de l'émission. Donc on est obligé de faire un timing qui en plus oblige les candidats à être un peu concis et un peu courts, à faire court, parce que là aussi, ils peuvent aussi avoir des réponses qui sont interminables.
Nous allons bientôt arriver au cœur du sujet qui nous a mené à Tristan Carnet, le débat du 3 mai 2017 et la manière surtout dont il a été vécu par ce chef d'orchestre hors pair de la télévision française. Si vous souhaitez en savoir plus, restez avec nous.
1974.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Négociation en vue du débat de 1981.
Monsieur le Président, je pose une condition à notre face-à-face et je n'en pose qu'une seule. Que ce soit des journalistes et un réalisateur désignés d'un commun accord qui l'organisent.
1981.
Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
1988.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Tristan Carnet, réalisateur de télévision. C'est lui qui signe The Voice, Danse avec les stars, Le Quotidien, Le Téléthon, ainsi que des dizaines d'autres émissions de divertissement, d'information ou de politique. Tristan est également le réalisateur d'une des émissions les plus importantes de l'année 2017, un rendez-vous majeur de la 5e République, le débat de l'entre-deux-tours et celui du 3 mai qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Nous avons souhaité en savoir plus sur cette soirée avec son chef d'orchestre. Juste avant la pause, Tristan évoquait son expérience des campagnes présidentielles en tant que réalisateur conseil, expérience qui a grandement influé sur la manière dont il a souhaité orchestrer, organiser le débat du 3 mai 2017.
2007, on me propose cette première campagne, je ne peux pas la faire, celle de Nicolas Sarkozy. 2012, on me repropose de faire la campagne de cette fois-ci de François Hollande, je peux la faire. Je réalise quelques meetings. Je finis par faire la réalisation conseil du débat d'entre-deux-tours de 2012. Et donc, je vis ce débat de l'intérieur du car, mais sans le réaliser. Mais c'est passionnant pour moi parce que je suis vraiment au cœur d'un moment d'histoire fort, quoi. C'est souvent des débats qui sont très suivis, qui font une vingtaine de millions de téléspectateurs. Et j'ai le privilège d'être dans le car et je suis très heureux de le vivre. Je me dis, c'est génial. Voilà encore une expérience nouvelle.
Puisque tu parles de ce débat, est-ce que quelque chose te marque? Tu dis que tu es très heureux. Est-ce que toi, tu regardes les choses de manière technique ou tu regardes le fond? Tu regardes... Parce qu'en plus, tu es dans un camp à ce moment-là, même si ce n'est pas forcément le camp pour lequel tu as voté. Hein, mais, ouais. Mais en tout cas, j'imagine que tu dois t'identifier aux personnes autour. Tu dois...
Bien sûr, on est dans un match. Hein, c'est comme un match, comme une finale, quoi, avec tous les enjeux d'une finale qui sont là. Et donc je vis quelque chose de particulier, mais que tous les Français ont vécu. Je vis le moment du débat qui est le moment de la bascule de ce débat qui est le mois président de François Hollande. Qui est un moment, en fait souvent ces débats durent 2h30 mais ils basculent sur un moment. Historiquement on se rappelle de « vous n'avez pas le monopole du cœur » etc. dans les débats précédents. Et là la bascule s'est faite sur ce mois président de Hollande qui a été le moment un peu... très fort du débat qui a fait que ça a basculé.
François Hollande, quel président comptez-vous être?
Un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur.
Il en a fait 15 des mois président. À 17, ça aurait été ridicule. À 15, ça a été le moment du débat. Il a eu ce tunnel, personne ne l'a arrêté, c'était pas prévu, c'était pas répété. Et comme il l'a fait, et que personne ne l'arrêtait, il a continué. Et comme les plans de coupe, c'est-à-dire les plans d'écoute du candidat qui ne parle pas, n'étaient pas autorisés, Jérôme Revon, le réalisateur, passait des plans larges de temps en temps. Et moi, je voyais le gros plan du candidat adverse de Nicolas Sarkozy.
Tu voyais la caméra qui était sur Nicolas Sarkozy, quoi.
Je voyais cette caméra, mais que les téléspectateurs ne voyaient pas, puisque Jérôme Revon n'avait pas l'autorisation, étant donné que la charte de réalisation ne permettait pas les plans de coupe, de passer cette caméra. Je pense qu'il aurait voulu lui, Jérôme, on se connaît bien, c'est très antinaturel, c'est une réalisation très antinaturelle. L'envie d'un réalisateur à ce moment-là, c'est de pouvoir passer des plans d'écoute, mais il ne peut pas le faire.
Et qu'est-ce qu'on aurait vu alors? Toi, tu le voyais, tu te souviens?
Bah oui, vous auriez vu le visage de Nicolas Sarkozy qui encaissait ce moment, parce que c'est un moment qu'il encaisse, clairement. C'est un moment compliqué pour lui. Personne ne l'arrête. Hollande est dans son boulevard. Il assène les moi président, et c'est autant de coups portés aux candidats adverses. C'est un moment fort du débat.
Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français.
Ensuite, l'élection a lieu. François Hollande est président. Moi, je continue de travailler, de reprendre mes activités normales, évidemment, en télévision, dont les émissions politiques que je fais, pour lesquelles, encore une fois, on nous demande la plus grande neutralité, ce que, j'observe à chaque fois que je réalise des émissions. Puis arrive cette campagne. Je réalise donc les débats des primaires de droite, de gauche, les face-à-face, le débat à 5, où là, je suis d'une neutralité parfaite, qui d'ailleurs convient bien à tous les candidats, puisque au moment où on évoque mon nom pour réaliser le débat d'entre-deux-tours, comment ça se passe? Les chaînes proposent des noms de réalisateurs, proposent ces noms au CSA et aux candidats, en tout cas aux représentants des candidats. Et puis, ils discutent entre eux, c'est une réunion à laquelle nous n'assistons pas, les réalisateurs, évidemment, on n'est pas conviés à ce moment-là, et les candidats se mettent d'accord sur un nom, tous. Et le CSA accepte, et voilà, moi, mon nom a été accepté, parce que précisément, tout le monde est revenu sur les débats précédents, et personne n'avait rien à redire, ni l'équipe de Marine Le Pen, ni l'équipe d'Emmanuel Macron. Ils ont dit, bon, écoutez, c'était satisfaisant, le débat à 5 nous a satisfait, les débats des primaires, voilà, mais en tout cas, pour le débat, qui était le débat à 5 que nous avions fait sur TF1, ils étaient satisfaits de la façon dont la mise en image de ce débat s'était déroulée. Ils ne s'étaient pas sentis piégés à aucun moment, etc. Et voilà comment mon nom est sorti du CSA et qu'on m'a appelé pour me dire que c'était moi qui allais réaliser le débat d'entre-deux-tours. Et là, donc, à partir du moment où on est parti sur le travail de préparation de ce débat d'entre-deux-tours avec les chaînes et avec les représentants des candidats et avec le CSA, bon, ben voilà, après, on repart dans une nouvelle production qui est comment va être le décor, est-ce qu'ils préfèrent être debout, assis, donc ils ont préféré être assis, est-ce qu'une table de 2,50 m de long est bien? Oui, elle est bien parce qu'elle permet de ne pas être trop loin, ni d'être trop proche non plus, elle permet d'avoir une bonne distance pour pouvoir parler, la climatisation, les cadres, etc. On est très vite pragmatique, quoi. On est très vite dans une fabrication d'une émission, comme on en fait plusieurs dans l'année, sauf que celle-ci a la particularité d'être très observée. On a beaucoup de journalistes qui nous posent des questions, comment ça va se passer, la clim, etc. Bon, parce que, évidemment, la presse fait monter aussi un peu l'ambiance autour de ce rendez-vous. Elle attise un peu le truc, est-ce que vous pensez qu'ils vont beaucoup s'écharper, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Nous, on travaille sur la préparation d'un cadre qui est le plus égal possible en termes de traitement pour les candidats. Ils sont assis sur la même chaise, ils ont le même fond de gros plan et les caméras sont à la même distance. Tout ça est extrêmement travaillé dans un cadre très précis et encore plus précis du fait que c'est un rendez-vous très médiatisé.
On était des milliers barbecue de l'Élysée, tous de blanc vêtus, toutes en dos nus, et les gens se baignaient dans des bains de champagne, les gens se caressaient sur des tissus pagnes. Il y avait Frank Sinatra, Madonna et Jean 23, Gershwin au piano et Yoko Ono. Il y avait Woody Allen, il y avait Eminem, Elvis Presley, Charles. Ce que je fais. et là, je ne le savais pas.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Nous sommes cette semaine avec le réalisateur télé Tristan Carnet.
Alors la chose que je souhaitais faire absolument, dont on a beaucoup parlé, c'est ces fameux de plans de coupe. Alors les plans de coupe, c'est quoi? Je redis, c'est, je réexplique ce que c'est. C'est passer un plan de la personne qui ne parle pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan de coupe, c'est-à-dire quitter la personne qui est en train de parler pour passer à un autre plan. C'est un plan large, c'est aussi un plan de coupe. Un plan d'un journaliste, c'est un plan de coupe. En l'occurrence, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir réintégrer l'idée qu'on puisse passer un plan du candidat adverse, c'est-à-dire celui qui ne parle pas. Pourquoi ? Parce que depuis 1974, c'est-à-dire depuis le premier débat télévisé qui avait eu lieu entre Giscard et Mitterrand, Giscard d'Estaing et Mitterrand, il n'y avait pas de plan de coupe.
Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres.
Ça avait été dealé à l'époque comme ça, ils s'étaient mis d'accord avec le réalisateur, il n'y avait rien eu d'écrit en 1974, ils s'étaient mis d'accord pour qu'on reste sur le candidat qui parle. Puis ça s'était fait comme ça. En 1981, Mitterrand a demandé à ce qu'on reste de la même façon sur le plan du candidat qui, à l'image sur le candidat qui s'exprimait, sans passer de plan du candidat qui ne parlait pas. Mais cette fois-ci, ils l'ont écrit. Avec Serge Moati, qui était le réalisateur un peu attitré de Mitterrand et Badinter, je crois, ils ont écrit une charte de réalisation qui a été signée par les candidats, par le CSA de l'époque qui ne s'appelait pas le CSA, et par le réalisateur du débat de 1980. Ça permettait aux candidats d'être à peu près sûr que quand l'autre candidat parlait, lui pouvait regarder ses fiches sans être montré. Et ça lui permettait d'avoir des petites respirations comme ça, en sachant qu'il ne passait pas à l'antenne et donc de pouvoir faire ce qu'il voulait faire, boire de l'eau, regarder ses fiches, etc. Depuis 80, cette charte a été tacitement reconduite comme ça à chacun des débats. Pourquoi ? Parce que l'exercice voulait qu'on dise tiens, sur le dernier débat, il n'y avait pas de plan de coupe, qu'est-ce que vous voulez faire cette année ? Ah bah oui, c'est très bien, pas de plan de coupe. Sur celui de 2012, parce que je ne sais pas pour les autres, Jérôme Revon, qui réalisait le débat, avait réussi à faire évoluer un peu la machine et il avait réussi à intégrer le fait qu'on puisse passer au moins des plans larges, voire des plans de coupe des journalistes qui, eux, pouvaient être en plan d'écoute du candidat qui parlait. Là, cette année, moi, je voulais absolument replacer les plans de coupe. Alors, j'ai expliqué une nuance importante qui...
Tu dis replacer, mais en fait, c'était la première fois dans la Ve République, qu'il y avait des plans de coupe pour un débat de l'entre-deux-tours.
Voilà, c'était la première fois. Il se trouve que sur les débats précédents, donc pas le débat d'entre-deux-tours, mais les autres, ceux des primaires de droite, de gauche, puis le débat à 5, j'ai passé des plans de coupe.
Sans demander ou...
J'en avais parlé à chacun des candidats, je les avais rassurés sur le fait que ce ne seraient pas des plans de coupe, mais des plans d'écoute. Pourquoi je fais cette nuance-là ? Parce que c'est vrai qu'un réalisateur, il peut influencer le regard qu'on peut porter sur un débat. Selon qu'il passe, par exemple, si un réalisateur décide de passer plusieurs fois les plans d'un candidat qui regarde ses notes, à la fin du débat, il peut laisser penser au téléspectateur que le candidat ne connaît pas ses dossiers. Sauf qu'en réalité, il a un peu guidé les téléspectateurs à penser ça, puisqu'il n'a passé que des plans du candidat au moment où il regardait ses notes. Donc là, on peut effectivement se dire, tiens, ce candidat ne connaît pas ses dossiers, il a tout le temps le nez dans ses notes. Mais ça a quand même été, ça aurait pu être un choix du réalisateur que de montrer ça. Donc moi j'avais fait une nuance en disant ce ne sera pas des plans de coupe, ce seront des plans d'écoute. C'est-à-dire je m'engage à passer le plan du candidat qui ne parle pas, mais au moment où ses yeux sont posés sur le candidat qui parle, c'est-à-dire au moment où il l'écoute. Je ne passerai à aucun moment de plan du candidat qui ne parle pas lorsqu'il regarde ses notes, lorsqu'il se gratte l'oreille, lorsqu'il boit de l'eau.
S'il envoie des SMS.
Ou s'il envoie des SMS, etc. J'ai dit moi je ne passerai des plans... du candidat qui ne parle pas que lorsque ces plans-là racontent quelque chose. Et à ce moment-là, j'essayais d'expliquer aux candidats que leur intérêt, c'était que dans ces moments-là, ils pouvaient aussi acquiescer, dire non de la tête, dire oui, et avoir des expressions qui racontaient quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que s'il n'y a pas ces plans de coupe-là, si un candidat parle pendant trois minutes, je suis sur le candidat et l'autre disparaît de l'antenne. Alors qu'avec des plans d'écoute, ben, selon que le candidat acquiesce ou dise non, et ben on comprend en une image qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train d'être dit.
Et en plus, ça aère la personne qui est en train de parler, ça valorise aussi son propos, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui l'écoutent, des gens qui réagissent, etc. Et ça rend les choses moins ennuyeuses, j'imagine.
Ça rend les choses beaucoup moins ennuyeuses, et c'est beaucoup plus naturel, parce qu'en réalité, si toi, tu viens te mettre sur le plateau, et que tu te positionnes en face de la table, je suis persuadé que ton regard va passer de l'un à l'autre en permanence. Tu ne vas pas rester naturellement, on ne reste pas que sur la personne qui parle. Surtout si cette personne-là est en train de dire une vacherie ou quelque chose de dur à l'autre. Naturellement, notre regard se porte sur l'autre, on a envie de voir sa tête. On a envie de voir s'il fronce les sourcils, s'il dit non de la tête, s'il lève les yeux ou si, à l'inverse, il est abasourdi par ce qui est en train d'être dit. Donc, moi, je pense que ces plans d'écoute, ils racontent quelque chose. Ils donnent un élément important aux téléspectateurs de compréhension du débat et c'est assez naturel que de porter son regard sur l'un comme sur l'autre. Et donc, on s'est battu très rapidement avec Catherine Nel, notamment, qui est la patronne de la rédaction de TF1, pour justement imposer ça. Mais ça a été un travail assez long. J'aurais aussi avancé l'argument qui était que c'est le seul exercice télévisuel, et d'ailleurs on est un des seuls pays en Europe, et je crois même au monde, à avoir cette sécurité-là. C'est la seule émission pour laquelle il y a des réalisateurs conseils dans le cadre régie. Chacun des candidats a un réalisateur conseil. Donc je leur ai proposé que le réalisateur conseil puisse me demander, pendant le direct, de retirer un plan d'écoute si le plan d'écoute ne leur convenait pas. Et même, je leur ai donné l'assurance que si le réalisateur conseil me demandait de ne pas passer de plan d'écoute pendant 3 minutes, parce que, je ne sais pas, sur un tel dossier, il savait que son candidat risquait de mettre le nez dans ses fiches, eh bien, à ce moment-là, je m'engagerais à ne pas le passer. Donc, j'ai avancé à la fois tous ces arguments, puis je leur ai expliqué à quel point les choses étaient verrouillées, même par les réalisateurs conseils dans le CAR, et je leur ai dit, franchement, dans ce cadre-là, il n'y a aucune chance que vous puissiez être trahi par des plans d'écoute.
Donc, les candidats, finalement, les équipes, les candidats finissent par accepter ce qui ne s'est jamais fait, les plans de coupe.
D'abord, ils finissent par accepter avec un mot qui existe dans la charte de réalisation, qui est avec parcimonie, c'est-à-dire pas trop de plans d'écoute. On peut considérer que, compte tenu de la vigueur des échanges, j'ai passé des plans d'écoute avec parcimonie. J'aurais pu en passer beaucoup plus. Il y en a beaucoup, mais étant donné qu'ils se sont beaucoup interpellés l'un et l'autre, j'aurais pu en passer encore davantage. Après, l'autre chose qui est importante aussi à dire, c'est qu'ils ont accepté les plans d'écoute, mais sans perdre à l'image leur candidat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de split screen, ce qui est le double fenêtrage. Très souvent, je passe des plans à deux, dans une double image où on voit les deux candidats en même temps, ce qui me permettait de ne pas quitter le candidat qui parlait pour pouvoir quand même montrer l'autre. C'est une technique de réalisation. Après, je ne me suis pas plus préparé que ça parce qu'encore une fois, quand on réalise ce genre d'émission, on prépare un cadre qui est le plus sûr possible hein, dans ce genre d'émission-là. On double tout, par exemple. Les caméras sont doublées, les projecteurs sont doublés parce qu'il n'est pas question qu'on puisse avoir une panne de projecteur sur l'un des candidats en pleine émission, en direct. On nous dirait tout de suite, mais pourquoi est-ce qu'un tel était moins éclairé que l'autre ? Donc, on se sécurise en doublant tout. Dans ce cas de figure particulier, c'est la seule émission où tout est doublé comme ça, techniquement. Et après, on ne se prépare pas plus que ça parce que la donne qu'on n'a pas et qui va rythmer la réalisation de l'émission, c'est eux. C'est comment ils vont être. Donc, il se trouve que la réalisation était plutôt rythmée parce que Marine Le Pen était assez agressive et que les échanges ont été plutôt vifs. Mais c'est eux qui vont donner le la du rythme de l'émission. Et nous, les techniciens et moi, réalisateurs, je vais suivre ce rythme-là.
Vous êtes en fait la France qui se soumet.
La grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi.
De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou madame.
D'accord. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez, parce que vous en vivez, vous êtes son parasite.
Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus, moi je me pique de le savoir. Aïe aïe, bouille, aïe aïe.
Qu'est-ce que c'est tes souvenirs pendant le débat, pendant la réalisation? Est-ce que tu as des souvenirs particuliers? J'imagine que tu es très concentré, mais est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué? Comment ça s'est passé pendant?
J'ai pas de souvenir précis, si ce n'est celui que tout le monde en a de ce débat, c'est-à-dire d'avoir vu une candidate assez agressive qui peut-être sort un peu toute sa charge dès le début et se retrouve un peu plus à vide de d'arguments après sur la deuxième partie, un candidat qui lui est plus posé. Voilà, après, moi j'essaye de montrer, encore une fois, j'ai pas vraiment de souvenirs, parce que j'essaye vraiment de me poser la question, de montrer justement ses plans d'écoute au bon moment, quand il raconte quelque chose, ça va très vite, dans ma tête je sais qu'il faut pas que j'en montre trop non plus, donc j'essaye de pas me laisser aller le risque. Moi j'aime beaucoup la réalisation quand les plans sont posés. Donc évidemment, quand un débat est très vif, les plans doivent être posés, mais en même temps, on doit être dans le rythme de ce qui se passe. Donc là, évidemment, le double fenêtrage m'aidait beaucoup, parce que dès qu'il parlait à deux, je le mettais à l'antenne, et puis je levais les doigts du mélangeur et je les laissais parler, enfin, s'échanger leurs propos, quoi.
Autre chose, tu m'as parlé beaucoup donc de ce débat et puis de la manière dont vous avez réussi à imposer les plans de coupe ou les plans d'écoute. Tu m'as beaucoup mentionné le fait de regarder ces dossiers, t'as rassuré sur le fait que tu n'allais pas montrer les candidats regarder leurs dossiers. Une des choses qui est quand même frappante et qui est ressortie aussi de ce débat, c'était une forme d'impréparation de Marine Le Pen qui était liée à cette image d'une candidate qui passe son temps à regarder des dossiers, qui cherche dans ses notes alors qu'elle est en train de parler, hein, donc j'imagine que c'était pas un choix de toi de la montrer, mais et à l'inverse, un candidat de l'autre côté qui ne regardait jamais de notes ou qui en tout cas n'avait pas de dossier visible, hein, je sais pas s'il en avait et que tu les as pas montrés, qui buvait un verre d'eau de temps en temps, mais c'est tout. Donc finalement, cette crainte que tu as essayé de dissiper en permanence en expliquant à tout le monde plan d'écoute, plan d'écoute, plan d'écoute, c'est quand même une des choses qui a fini par marquer dans ce débat l'impréparation de Marine Le Pen qui regarde systématiquement un classeur avec des dossiers et où en plus elle s'y retrouve pas. Et où en plus, enfin, elle sort souvent des choses qui étaient fausses, quoi.
Oui, alors tous les moments que tu évoques, c'est des moments qui sont montrés, encore une fois, dans ce qu'était la charte. Hein, parce que les moments, effectivement, où elle regarde ses dossiers, c'est des moments où elle parle en regardant ses dossiers. Donc là, je suis sur la candidate qui parle. Il se trouve qu'elle parle en ouvrant des dossiers. Mais les fois où elle a pu regarder ses dossiers sans parler, à ce moment-là, je l'ai pas montré. Le moment où Emmanuel Macron boit de l'eau, je le montre parce que Marine Le Pen vient de lui dire « buvez de l'eau ». Et donc, voilà, typiquement un moment où les téléspectateurs ne comprendraient pas qu'on ne puisse pas montrer le candidat en train de boire de l'eau. Au moment où la candidate lui dit ça, c'est quand même peu banal dans un débat d'entre-deux-tours.
Ça peut même être trompeur si tu ne le montres pas. En fait, on peut penser qu'elle lui dit un truc qui est une sorte d'injure ou j'en sais rien, une allusion à autre chose, etc.
Exactement, ça peut même être trompeur. Et d'ailleurs, comme j'avais dit que je ne montrerais pas de candidat boire un verre d'eau en gros plan, comme je ne le montrerais pas en train de lire ses fiches ou de se gratter l'oreille, je passe ce plan en plan large. Parce que je me dis, tiens, il faut que je le montre quand même, parce que c'est peu banal que sur un débat de cette ampleur-là, et dont l'enjeu est quand même important, un candidat puisse dire à l'autre, buvez un verre d'eau, buvez un verre d'eau. Donc je me sens dans l'obligation de le montrer, je passe par un plan large. Maintenant, je pense que c'est un cadre d'émission très particulier, celui du débat d'entre-deux-tours, dans lequel tout transpire en fait. Une candidate comme Marine Le Pen, elle est plutôt bonne en télévision. Elle est forte, elle sait prendre la parole, elle sait créer des moments. Je pense qu'elle est assez forte quand elle est dans des émissions qui sont assez cadrées. Hein, quand elle fait l'émission politique de France 2, c'est des émissions qui sont bien préparées, dans lesquelles il y a un rythme qui est donné par la chaîne, qui est celui de faire rentrer un moment un chroniqueur, puis un peu plus tard dans l'émission, on fait rentrer un débatteur, quelqu'un qui va s'opposer à ce que dit la personne invitée, puis à la fin de l'émission, on fait venir un humoriste, etc. Bon, je pense que Marine Le Pen, elle est très forte pour faire éclater ce genre de canevas-là, elle sait parfaitement le faire, et c'est ça qui la rend aussi assez bonne en télévision de manière générale. La particularité du débat d'entre-deux-tours, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. Le débat d'entre-deux-tours, il y a un moment donné, ça reste deux personnes autour d'une table, et toute la vérité explose à ce moment-là.
Si tu avais une conclusion de cette expérience pour toi, de ce débat, de ce que tu as apporté, de la bataille pour... si tu devais conclure ou si tu t'es fait ta propre conclusion, ce serait quoi ? Est-ce que tu as envie d'en refaire ? Est-ce que tu considères que c'était bien d'apporter ça et ça restera ? Voilà, qu'est-ce que c'est ?
La conclusion, moi, c'est d'abord, je me rends compte que la télévision, ça reste quand même dans des moments comme ça d'élection. La télévision, elle joue un rôle très important. Les gens ne vont pas aller voir. Enfin, il y en a qui l'ont revu, mais on n'a pas envie de voir ce débat en replay. On a envie de le vivre en direct. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens, ce soir-là, n'ont pas pris de dîner, ne sont pas sortis au resto. Et donc, moi, j'aime bien me dire que la télévision, ça reste un gros rendez-vous comme ça. Après, à titre personnel, y participer, c'est super, parce que c'est des moments historiques. Et puis, la conclusion, à mon humble petit niveau, me dire que j'ai réussi ce petit truc d'avoir remis en place un peu les plans d'écoute comme ça sur ce débat-là, enfin remis, en tout cas réussi à amener ça, et c'était nouveau. C'est une conclusion qui m'ouvre un peu à regarder ce que va être le débat de 2022, parce que je ne vois pas comment on pourrait maintenant faire marche arrière sur cette question des plans d'écoute.
C'était l'Atelier des médias, une émission signée Constance Léon, Marie-Stéphanie Serveuse, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci à Tristan Carnet pour son accueil et sa générosité narrative. Merci à Clément pour la facilitation. Il se reconnaîtra. Rendez-vous dans 6 semaines pour les émissions de rentrée. Je vous l'annonce dès maintenant, nous allons célébrer au mois d'octobre les 10 ans de l'Atelier des médias. Si vous avez des idées, des envies, des suggestions à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Salut à toutes et à tous.